Bonjour, vous écoutez l'épisode 56 du podcast Les Petits Plus Zen. Je suis Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité après avoir été pendant 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous proposer une petite explication sur ce que c'est l'écoute empathique. L'écoute empathique de l'enfant et l'écoute empathique entre adultes, entre collègues, entre amis, entre partenaires. Vous allez voir que ça va s'appliquer à toutes vos sphères de vie, à tous vos domaines de vie et que ça peut vraiment avoir des effets bénéfiques très rapidement. Pourquoi je vous présente ça dans un podcast autour de l'enfance? C'est que bien souvent, l'enfant, il commence à s'exprimer, il commence à parler, à faire des gestes, à faire des signes. On a détaillé un petit peu tout ça dans l'épisode 19 sur comment aider l'enfant à s'exprimer. Mais parfois, on ne connaît pas trop quelle est la posture à adopter en face de cet enfant qui fait des efforts pour communiquer avec ses stratégies à lui. C'est parfois un peu maladroit, c'est parfois un peu débutant puisqu'il n'a pas encore tous les codes de communication et de langage. Pour lui, quand il pleure, c'est très clair ce qu'il veut, mais pour nous, beaucoup moins, parce qu'on est obligé de traduire, on est obligé de mettre en mots ce qu'il n'arrive pas encore à bien exprimer. Donc notre filtre, nous, d'adultes, on a une grille de référence, on essaye de comprendre si c'est plutôt un besoin alimentaire, un besoin de calme, un besoin d'être porté, un besoin de changer de pièce, un besoin de stimulation, un besoin de dormir. On va essayer de décoder ça à partir de ce que lui, il va nous transmettre et de ce que lui, il va nous émettre, soit par sa posture, par ses gestes, par ses mots, par ses gazouillis, par ses pleurs. Et puis parfois, on a le bon décodeur et puis parfois, on veut nous aller vite, on veut être efficace, on veut être réactif et on perd un petit peu cette notion d'écoute empathique de l'enfant, cette notion d'écoute empathique de l'adolescent, puisque ça peut aussi s'y référer. Je fais un petit clin d'œil à ceux qui ont écouté la room sur l'adolescence, parce que ça va beaucoup pouvoir nous servir d'installer ça très tôt. Donc cette posture d'ouverture, ce n'est pas justement répondre tout de suite à la place de l'autre, ce n'est pas conseiller l'autre, ce n'est pas juger l'autre, ni réduire ce qu'il dit à quelque chose de futile ou de provisoire. Donc on va vraiment expliquer dans cet épisode comment mettre en place une écoute empathique, une écoute active aussi. Dans certains livres, vous allez retrouver ce terme. C'est pas non plus ramener à soi tout ce qui est dit par l'autre, ni le questionner, ni faire de la philosophie de comptoir, ni nier son émotion ou sa phrase, ou ni lui reprocher ce qu'il a dit ou ce qu'il demande. Donc ça devient difficile de trouver quoi faire une fois qu'on a toute cette liste de ne pas. Hein, si vous avez écouté l'épisode sur les énoncés positifs, hein, c'était un des tout premiers, je crois que c'était l'épisode 4. Quand on sait ce qu'il ne faut pas faire, c'est bien, mais comment on fait donc en positif? Comment on fait l'attitude? Quelle est l'attitude et le comportement à adopter quand on veut faire une écoute empathique de notre enfant ou une écoute empathique d'une autre personne? Donc, avant de vous donner les outils et les pistes concrètes, je vais quand même vous donner les bénéfices. Parce que les bénéfices d'une écoute empathique, c'est justement se connecter à l'autre. Et cette connexion, elle va nous permettre d'engranger tout un tas de bons moments, tout un tas de liens de confiance, de connexion, qui va pouvoir nous aider dans les moments difficiles. Ça veut dire qu'on sera une personne ressource, on sera une figure d'attachement. Plus on écoute notre enfant, notre élève, notre partenaire, plus le lien d'attachement se renforce et l'autre personne entend qu'il peut déposer là ses peines, ses doutes, ses émotions, ses questionnements. Donc on est dans cette notion de confiance d'attachement qui va être évidemment très sécurisante pour l'autre personne. On est aussi dans cette image, comme on disait sur l'adolescence, du porte-avions. Ça veut dire que la personne, quand elle sait qu'on est une écoute empathique, elle pourra revenir vers nous en cas de besoin, en cas de doute, on pourra être une personne ressource, on pourra être une base de sécurité. Et puis le dernier avantage à proposer des écoutes actives ou empathiques à nos enfants, c'est que cette autonomie qu'on va lui proposer de réfléchir lui-même à ce qu'il ressent, de réfléchir lui-même à ce dont il a besoin, va lui permettre une autonomie émotionnelle, une responsabilité émotionnelle et une indépendance émotionnelle qui n'a pas de prix. Vous m'entendez parler vraiment de cette indépendance émotionnelle depuis plusieurs épisodes, à chaque fois que je vous parle de la cheminée des émotions, parce que bien souvent, on reproche aux autres quelque chose qu'on n'a pas bien vu en nous. On reproche aux autres une émotion qu'on croit attribuée à l'extérieur alors qu'elle vient de nous et de nos besoins. Donc c'est tout le processus qu'on travaille en ce moment avec les mamans qui ont rejoint le programme Emotizen qui est en ligne. Donc cette idée du déclencheur, cette idée de l'expression de soi, cette idée d'une action consciente en fonction de ce qu'on ressent et de ce qu'on comprend de nous, elle peut être permise justement par une écoute empathique d'une personne qualifiée, d'une personne motivée, d'une personne volontaire. Donc il y a un petit modus, il y a peut-être quand même une petite modification à faire, c'est qu'on ne sera pas toujours en état de faire une écoute empathique. On ne sera pas toujours disponible mentalement, physiquement, pour écouter de manière empathique nos enfants, nos élèves, notre collègue, notre conjoint. Il y a des moments où on ne peut pas le faire parce que nous-mêmes, on aurait peut-être besoin à ce moment-là d'une écoute empathique nous-mêmes. Donc, ne nous mettons pas en tête, une fois de plus, d'être toujours en mode écoute empathique. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas possible. Donc, on ne se rajoute pas une pression supplémentaire de culpabilité ou une flamme de « je devrais » ou « il faudrait », pas du tout. C'est juste une technique supplémentaire à mettre dans votre sac, un outil supplémentaire à mettre dans votre caisse à outils que, quand on essaye de proposer une écoute empathique à notre enfant, ça fait redescendre sa flamme d'émotion. Ça peut aussi nous faire redescendre notre flamme d'émotions désagréables et au contraire augmenter une flamme de joie, de connexion, de confiance, de moments partagés, de tequila. Donc maintenant que vous avez les bénéfices, ça peut vous donner de plus en plus envie d'avoir les outils qui vont avec et les pistes qui vont avec. Donc les premières pistes, ça va être d'écouter précisément les mots de notre enfant. Parce qu'à travers ces mots, même s'il les a choisis avec un petit peu de tâtonnement, il y a caché dans ces mots une notion qui va nous guider vers sa rayure de besoin, vers un de ses besoins. Donc le décodeur peut commencer juste à l'écoute des mots de notre enfant. Ensuite, on va pouvoir, à travers de son expression faciale, ses gestes, ses mots, voir quel est le type de flamme qu'il est en train de vivre. Est-ce que c'est une flamme de joie, d'excitation? Est-ce que c'est une flamme de calme, de paix? Auquel cas, on va être plus facilement en lien avec lui, puisque c'est plutôt des flammes agréables. Donc, pour se connecter à lui, dans ce cas-là, l'écoute, ça va être vraiment un partage à nous deux de ce moment de joie à savourer en gratitude, en reconnaissance de la vie. Donc quand c'était une flamme agréable, c'est plus facile d'être dans l'écoute empathique puisque ça ne réveille pas chez nous une braise, ça ne réveille pas chez nous quelque chose d'inconfortable. Par contre, quand l'enfant arrive vers nous et nous dit sa peur, sa colère, sa tristesse, son agacement, son inquiétude, sa rage parfois, nous, en écoutant, ça peut réveiller justement chez nous aussi une flamme désagréable, aussi une braise de colère, de peur, de tristesse, d'agacement. Et c'est à ce moment-là que l'écoute va nous demander beaucoup d'étanchéité entre ce qu'on perçoit de l'autre et ce qu'on ressent déjà dans notre propre cheminée. Donc essayez, en visualisant, de cloisonner un petit peu ce que vous ressentez dans votre cheminée, des émotions, quelles sont vos flammes actuellement, vous les mettez un peu de côté en disant « je verrai ça plus tard » parce que pendant l'écoute empathique de notre enfant, de notre élève, de notre ami, on va se concentrer sur sa cheminée à lui, sur ses flammes à lui et sur ses besoins à lui à travers ses mots, ses gestes, ses mimiques et sa façon de nous transmettre toute cette émotion qu'il vit en ce moment. Donc la première piste, c'est vraiment de créer une petite étanchéité entre ce qu'on reçoit et ce qu'on avait déjà en nous. Sinon, on ne va pas être capable, ça va être pollué un peu, ça va être contaminé. On va se référer constamment à nous et on ne va plus être dans l'écoute. Il y a un petit exercice qu'on fait en communication non violente qui est d'essayer de rester sur le surf. C'est comme si on restait concentré sur le surf, à écouter ce que l'autre dit. Et dès qu'on pense à nous, à notre vécu, à nos flammes, à ce que ça nous rappelle, c'est un peu comme si on tombait du surf. Parce qu'on n'était plus 100% connecté aux paroles de l'autre, aux gestuels de l'autre et à l'intention de l'autre de partager avec nous. Alors, c'est une pratique très difficile. C'est une pratique que j'ai installée depuis un peu plus de 2 ans et qui est encore perfectible, qui est encore difficile à installer. Donc, une fois de plus, ne vous dites pas que ça va être très performant, très efficace dès la première fois, mais au fil des mois, vous allez voir à quel point ça touche la personne qui parle d'être là sur le surf et de l'écouter pleinement. C'est un cadeau qu'on va lui faire. Comme deuxième petite piste, on va essayer de voir à travers ces mots quelles sont ses attentes, quelles sont ses stratégies individuelles et quel est son stade de développement. Donc, suivant l'âge de votre enfant, vous allez peut-être comprendre qu'il avait très envie de manger le bonbon et que son copain a pris le dernier et que là, il n'y en a plus. Donc, son attente, c'était que lui aussi, il en ait. Donc, c'était un besoin de réciprocité, un besoin d'équité, un besoin de partager, un besoin d'exister en quelque sorte. Donc, vous allez essayer de deviner un peu l'attente de l'autre. Vous allez essayer de comprendre ses stratégies individuelles, pourquoi il a réagi comme ça, qu'est-ce qu'il avait en tête à ce moment-là de l'histoire. Est-ce qu'il aurait peut-être eu d'autres moyens de réagir, mais à son stade de développement, il n'en était pas encore conscient. Donc on reste complètement sur le surf et on se dit, de ce que j'ai compris de mon enfant, de ce que j'ai compris de mon élève, il a fait ce choix-là, pourquoi il a fait ce choix-là? Peut-être par rapport à son développement et à sa maturité, il croyait ne pas avoir d'autre solution. Donc tout ça, hein, on met dans une boîte, on met dans une base de données, on reste sur notre surf et on continue d'écouter la personne dérouler son histoire, son récit, sa proposition. On reste bien décentré de nous-mêmes et on va commencer à l'autoriser, à évoquer et à processer ce qu'il ressent. Et c'est la partie un peu difficile, c'est que lui, quand il est en train de partager tout ça, parfois il va se perdre dans les détails. Oui, mais lui, il a fait ça, et lui, il a fait ça, et après l'autre, il a fait ça. Donc là, on est dans le descriptif, c'est intéressant pour comprendre. Ça peut faire une partie du scénario, ça peut faire une partie du décor. Mais petit à petit, on va essayer de lui demander, mais comment tu te sens? Et de quoi tu avais envie? Ou de quoi tu avais besoin, si l'enfant comprend ce mot-là? Maintenant, mes filles, elles sont tellement habituées à ce mot-là qu'elles l'utilisent, mais au début, elles n'utilisaient pas le mot « besoin », elles utilisaient plutôt le mot « j'ai envie ». Donc, on va essayer de le recentrer un tout petit peu en lui demandant comment il se sent pour qu'il revienne lui aussi sur son surf, en quelque sorte, et qu'il arrête d'accuser les circonstances extérieures ou de prendre parti pour des choses qui sont vraiment en dehors de lui-même. Donc, ce petit point de se recentrer sur lui va lui permettre de continuer à dérouler ce qui s'est passé dans sa propre cheminée des émotions avec son propre arc-en-ciel de besoins à lui. Donc, on lui réoffre une attention concentrée pour qu'il puisse continuer à voir pourquoi il s'est énervé, pourquoi il est triste, pourquoi il a peur. Remplissez les petits pointillés en fonction de la situation de l'enfant en question. Donc, on va faire aucune supposition sur ce que l'enfant aurait dû faire, ça c'est très important. On va juste poser de temps en temps une question ouverte en disant « Quand tu as fait ça, comment tu t'es senti ? Est-ce qu'il y avait une autre idée qui était venue dans ta tête ? À quoi tu as pensé ?» Donc vraiment proposer des angles de réflexion pour que lui-même soit son propre référent et qu'il ne s'accroche pas à nous comme une solution, comme un sauveur, comme celui qui aurait la bonne réponse, mais qu'il puisse s'approprier ses propres actions et ses propres choix en se disant « Ah oui, mais en fait, pourquoi j'ai réagi comme ça ? J'aurais pu réagir autrement. » Donc, suivant l'âge de votre enfant, ça va être plus ou moins facile. À 4 ans, ça va être trop difficile de faire ça, mais vous pouvez le guider par des questions ouvertes, assez ciblé, si c'est votre enfant, vous connaissez bien ses réactions. Et puis si c'est un adulte, vous verrez que vous allez lui poser d'autres questions très précises en disant « Mais la personne extérieure, quand elle a agi comme ça, qu'est-ce que tu t'es dit ?» Donc d'aller plutôt dans le mental, d'aller plutôt dans la réflexion, quelle a été la pensée étincelle. Un petit clin d'œil à celles qui sont dans Emotizen, qui connaissent maintenant ce mot. La pensée étincelle, c'est celle qui s'est raccrochée au déclencheur factuel neutre, donc le déclencheur extérieur, et qui nous a créé cette flamme en nous, parce qu'on s'est dit tout ça. Donc nos pensées étincelles, elles sont la source, hein, conjointe de nos réactions par rapport aux braises qui étaient déjà là dans notre cheminée. Et ces pensées étincelles, l'enfant ne les voit pas encore très bien, mais par contre l'adulte peut déjà très bien les comprendre, et c'est ce qu'on fait quand on fait des binômes empathiques entre adultes. Mais je vous en reparle tout à l'heure de ça. Donc notre enfant, on va poser des questions de curiosité. Comment tu vois les choses, qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là, quand tu as vu que l'autre avait fait ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Donc des questions ouvertes, des questions de curiosité qui vont l'amener à prendre conscience de ce qui s'est passé dans le temps. Quelles ont été les causes et les conséquences? Qu'est-ce qui s'est passé en premier et qui a emmené cette réaction de sa part ou de la part de l'autre, du copain ou de la maîtresse, si ça s'est passé en classe? Donc vraiment de replacer dans l'ordre le récit chronologique à sa mesure, hein, en fonction de son âge, pour qu'il puisse se réapproprier tous les éléments qui étaient en place et qu'il puisse voir plus tard qu'il y avait peut-être d'autres possibilités de faire. Ce n'est pas du tout nous qui allons lui dire « tu aurais pu faire autrement ». À ce stade-là, on ne donne pas de conseils, on ne propose rien, on pose juste des questions de curiosité et des questions ouvertes. Ensuite, le deuxième outil, si on voit qu'il est un petit peu en difficulté pour reformuler tout ça lui-même, on va pouvoir lui proposer de reformuler ce qu'on a compris de son histoire. Donc on va utiliser les mêmes mots que lui et on va essayer de remettre ce qu'on a compris dans l'ordre sans juger, sans conseiller, sans proposer quoi que ce soit. Juste une reformulation de ce que l'enfant nous a confié, de ce que l'enfant nous a dit. Donc ça aussi, c'est un exercice de style, hein. Il y a un module complet dans Emotizen là-dessus. Reformuler ce qui s'est passé pour nous, reformuler ce qu'on a compris du déclencheur de cette flamme. C'est quelque chose qui est difficile parce qu'on n'a pas toujours l'habitude de le faire. Et là, en plus, si on est le parent, c'est d'autant plus difficile pour nous parce qu'on voudrait retirer la charge négative, en fait, de la flamme émotionnelle de notre enfant. Et on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour lui retirer la peine de sa flamme, on est là pour l'aider à processer la conscientisation de ce qu'il a vécu à l'intérieur. On est là pour lui donner les clés d'autonomie pour qu'il comprenne sa propre cheminée et ses propres besoins à lui. Donc, essayez de couper au fur et à mesure qu'ils arrivent les fils de jugement qui vont sortir de vos bouches, qui sortent encore de ma bouche aussi parfois, parce que c'est très difficile quand on a l'habitude de conseiller, de donner, de proposer, de juger. C'est difficile parfois de ne pas intervenir dans la discussion que l'autre nous propose, et c'est difficile de rester à l'écoute sans réagir, sans conseiller, sans donner notre opinion. Quand on est dans une écoute empathique, on ne donne pas du tout notre opinion à nous. On reste sur le surf et on essaye d'étanchéifier, une fois de plus, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce dont on a besoin nous-mêmes. Ensuite, dernier petit conseil, s'il arrive à reformuler lui-même ou s'il a été content de notre première reformulation, on va peut-être lui proposer de changer d'angle et de mettre en place des hypothèses sur si la situation se représentait, comment il pourrait faire. Ça veut dire que quand il a déroulé ça, peut-être que ça a duré 10 minutes, peut-être que ça a duré 5 minutes, peut-être que ça a duré 30 minutes, il en est peut-être assez mûr d'avoir tout vidé son sac de situation, ses flammes, ses besoins, ce qui s'est passé, ce que l'autre a dit, ce que la maîtresse a fait, et la punition, et la pluie, et le prof de tennis. Tout ça, maintenant, on va pouvoir lui demander, est-ce que tu veux qu'on réfléchisse ensemble à si ça recommence, qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc, c'est lui reproposer une hypothèse et une sorte de compromis pour se dire, t'es pas victime de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si jamais les situations recommencent, si jamais la situation revient, est-ce que tu aurais une autre façon d'agir? Donc là, on est déjà dans une sorte de dialogue, hein. On est vers la fin de l'écoute empathique. On est sur tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu as verbalisé au fur et à mesure que tu me partageais ton émotion et ton besoin. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas le remettre sur l'étagère comme si ça s'était jamais passé? Ou est-ce que tu vas t'en servir comme expérience et pour qu'à l'avenir, ça te serve de bagage supplémentaire, de ligne de connaissance de toi et de ligne de connaissance du monde sur ton CV, pour que tu puisses le réutiliser justement en bon carburant en disant bah, la dernière fois quand j'ai fait ça, il s'est passé ça. Donc si la prochaine fois il se repasse ça, je ferai peut-être autrement. Donc le réintéresser à l'éventail de stratégies qu'il a pour réagir à chaque instant, pour nourrir ses propres besoins, pour réduire ses propres flammes dans sa cheminée. Il y a toute une palette d'outils qui sont possibles. On ne va pas lui donner tout parce que l'idée, c'est qu'il soit autonome, dans sa démarche émotionnelle, dans sa responsabilité de ses propres besoins et de ses propres flammes d'émotion. Mais on va lui donner l'occasion. On va rester à l'écoute de ce qu'il pourrait réfléchir si la situation recommence, si la situation se représente. Donc ça va dépendre vraiment de l'enfant, de sa connaissance de lui-même, de son âge, de sa maturité. Il y a des enfants, au bout de 2 minutes, pour eux, c'est bon, ils ont fait le tour et ils sont repartis jouer. Ils voulaient juste poser un peu leur flamme avec quelqu'un. On a été le témoin, on a été le partage et hop, ils sont repartis dans la classe et ils sont repassés à autre chose. Ils avaient ponctuellement besoin d'une écoute. Et puis pour d'autres enfants, bah, peut-être que ça va se manifester aussi par un câlin, par un silence, par une présence, par un contact. Et il n'y aura pas besoin de toute cette parole. Ça peut être complémentaire, ça peut être à la suite les uns des autres. Et ça va dépendre vraiment de la personne que vous avez dans votre famille qui a besoin de cette écoute. Vous allez pouvoir moduler votre mode d'écoute en fonction de la personne qui est en face de vous. Pour finir cet épisode sur les enfants, je vais remettre un petit peu l'accent sur cette idée que c'est lui qui explore sa propre émotion et sa propre vision du monde, parce que nous, on n'était parfois pas là quand la situation s'est passée. Et donc, on ne va pas induire ce qu'on a compris de la situation, parce que peut-être que ça ne s'est pas du tout passé comme lui, il le raconte. Peut-être que ça ne s'est même pas passé comme nous, on le croit, parce que la vérité, ben, elle a été dans un autre lieu, dans un autre temps, donc il n'y a pas forcément eu de témoin de tout ça. Par contre, on peut accueillir quelle émotion ça a provoqué chez lui, de raconter ce qu'il a compris de cette situation. Donc on va le laisser au maximum explorer, se demander, se poser des questions tout seul sur les conséquences de la situation, des actions, des déclencheurs, des pensées étincelles. Et quand vous avez des ados en face de vous, vous allez pouvoir vraiment détailler plus ce qui s'est passé à la soirée, quand il y avait son ami qui était alcoolisé, quand il a voulu prendre la voiture. Là, vous allez pouvoir poser des détails factuels, neutres, des pensées. Qu'est-ce que tu as pensé? Comment tu t'es senti? Est-ce que tu penses à ce moment-là que ton ami était en capacité de... Donc vraiment rediriger la conversation vers ce qu'il pense, lui, ce qu'il ressent, lui, sans induire que vous avez la bonne réponse, sans induire que nous, on sait et que lui ne sait pas. Donc c'est vraiment une posture à travailler, c'est une posture qui est horizontale, vous entendez souvent ça dans le podcast, et si vous ne l'avez jamais entendu, vous pouvez écouter l'épisode 2, parce que ça parlait vraiment de ça. L'horizontalité, vous allez la retrouver dans tous les moments de connexion qu'on a avec les gens. On ne se sent pas l'expert de l'autre, on est là comme réceptacle de sa parole, on est là comme écoute, on n'est pas là comme expert, comme spécialiste, comme moi je sais, comme domination et comme soumission. Et ça, c'est très important que ce soit une relation éducative, de maître à enfant et élève, ou de parent à enfant, ou même avec nos amis, à un moment donné, quelqu'un de très haut placé, quelqu'un de très connu, peut avoir besoin d'une écoute empathique, quel que soit son statut, quel que soit son salaire, quelle que soit sa situation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et l'écoute empathique, c'est complètement universel. C'est vraiment un des modules qu'on a en formation de communication non violente, donc de Marshall Rosenberg. Vous avez plein d'ouvrages qui parlent de ça. Donc je vous invite à regarder sur Internet l'écoute empathique, quels sont les grands principes. Vous retrouverez une partie de ce que je vous ai expliqué ça avec mes mots, bien sûr, parce qu'ils sont transformés à la sauce des petits plus zen. Et le fait de ne pas faire de suppositions sur ce qu'a compris l'autre, parce qu'il n'en est peut-être pas à cette perspicacité, cette lucidité émotionnelle que nous, on aurait perçue. Peut-être qu'il n'a pas encore ce recul sur ses propres émotions, sur ses propres besoins. Donc on va être là, à l'écoute, on va être une sorte de miroir pour lui, pour qu'il puisse s'approprier lui-même ses émotions, ses flammes, ses besoins et ses envies d'action, ses stratégies d'action éventuellement, si la situation continue en l'état ou si la situation se représente à nouveau. Donc, on ne fait pas du tout de suppositions. On essaye de sortir des œillères qu'on a sur nos vies à nous, de nos filtres à nous, de nos lunettes à nous. Et on va essayer au maximum d'éviter tous les biais qu'on a. Hein, le biais de « c'est forcément comme ça » ou le biais de confirmation parce qu'on l'aime beaucoup, donc on veut être d'accord avec lui. Il n'a pas besoin qu'on soit d'accord avec lui. Il a besoin de réfléchir lui-même et on lui propose cet espace de réflexion. On lui propose cet espace pour lui-même s'approprier ses propres décisions. Donc c'est un cadeau d'autonomie qu'on leur fait quand on les écoute de manière empathique. C'est aussi un cadeau pour le long terme. Je reviens à cette room sur l'adolescence parce que c'est tellement important qu'ils puissent savoir à qui se confier, qui peut vraiment l'écouter et ne va pas réutiliser ses paroles contre lui à un autre moment, ne va pas utiliser ce qui a été dit dans cette confidence pour lui nuire, pour le manipuler, pour le publier sur les réseaux. Donc des gens autour de nous qui sont capables d'écouter, on en a peut-être, j'espère pour vous, on peut aussi en créer. Nous, à la suite de la formation en communication non violente, on a créé un groupe de pratiques autour des notions, un groupe de paroles de cercle empathique, et on a créé aussi des binômes. Donc, je partageais sur Instagram il y a quelques jours que là, j'ai fait mon 125e binôme d'écoute empathique. C'est quelque chose qui a clairement changé ma vie en un an. On a mis en place avec trois filles que je salue, donc coucou Audrey, coucou Anne et coucou Magali, des procédures en fait d'écoute mutuelle. Donc l'une de nous deux présente une situation qu'elle a vécue dans la semaine, dans le mois ou parfois dans le passé. Et on travaille ça avec le filtre de la communication non violente. On repart sur l'émotion du moment, les besoins qu'on a compris, quelles sont les stratégies qu'on pourrait mettre en place, quelles sont les propositions qu'on se fait pour sortir de cette situation si on y est encore ou si elle se représente. Donc tout ce travail que je vous ai détaillé, on peut le faire avec un ami, on peut le faire avec un binôme, et c'est très libérateur. De toute façon, c'est quand même très proche, hein, vous le savez sans doute, d'une sorte de thérapie où le thérapeute renvoie les paroles de l'autre, ou laisse dérouler le fil de la pensée, et au moment, pointe un mot, une tournure de phrase, pour nous inviter à explorer plus loin. Si vous êtes en thérapie, vous voyez de quoi je parle. Et pour ceux qui ne sont jamais allés en thérapie, bien entendu, dans notre façon de parler, de penser, d'émettre des sons, il y a toujours des mots qui sont un petit peu double sens, ambigu, et sur lesquels le thérapeute va rebondir, va pointer pour nous dire « ce mot-là, il est intéressant, pourquoi vous l'avez utilisé aujourd'hui ?» Donc dans une écoute empathique à proprement parler, on ne va pas intervenir sur tel ou tel mot, parce que sinon ce serait notre filtre qui interviendrait. Mais à la fin de l'écoute empathique, quand on en est à proposer une reformulation ou une hypothèse, à ce moment-là, éventuellement, on va pouvoir poser quelques mots en disant « j'ai ressenti quand tu m'as partagé ça, un besoin d'authenticité, est-ce que c'est ça pour toi ?» On va faire une hypothèse et l'autre va s'en emparer ou non. Parfois on tombe juste, parfois on tombe pas du tout juste, parce que nous-mêmes, on a induit ça avec notre compréhension et notre filtre à nous. Et ça permet à l'autre de se dire « ah, ça peut être compris comme ça, dans ce cas-là, peut-être que je n'ai pas expliqué ce que je pensais vraiment ou que l'autre a mal compris. » On est co-responsable hein, d'une écoute empathique. À aucun moment on fait mal ou il y a une bonne méthode, mais on est vraiment dans une réception, dans un accueil de ce que ressent l'autre par rapport aux mots et de ce que nous, on reçoit par rapport aux mots de l'autre. Donc j'espère que j'ai été le plus explicite possible. C'est des notions qui sont très abstraites. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Clubhouse, il y a une messagerie maintenant, sur Instagram ou sur Facebook, pour que je puisse apporter des éclairages sur ces notions-là. Il y a cette valeur inestimable hein, d'avoir quelqu'un qui nous écoute. Je vous conseille vraiment de trouver cette personne-là, même s'il n'y en avait qu'une, quelqu'un qui ne va pas vous juger, quelqu'un qui va vous proposer juste de poser votre fardeau et de déballer votre pelote et de trier elle-même ensemble, sans apport, sans jugement, sans conseil. J'ai deux ou trois mamans que j'accompagne qui m'ont dit quand on est venu dans certaines de tes rooms, c'est ça qui nous a frappé le plus, c'est qu'à aucun moment tu ne mettais tes mots à toi sur nos situations, tu étais dans une reformulation, tu étais dans une compréhension et dans une écoute qu'on a trouvé quand même très incroyable, très intéressante et très différente par rapport aux autres rooms sur Clubhouse. Et pour celles qui m'ont déjà entendu parler sur Clubhouse, je vous invite vraiment à télécharger cette application, non pas pour venir spécialement dans le club des petits plus zen, mais pour voir à quel point, dans des salons audio comme ça, vous pouvez arriver dans des rooms, dans des discussions, où les gens sont là pour avoir raison, et vous pouvez avoir des rooms ou des discussions où les gens sont là pour écouter les avis des autres. Et je vous dis tout ça parce qu'on va reparler de ça dans l'épisode de la semaine prochaine sur l'atelier philosophie, parce que une des bases de l'atelier philosophie, ça va être justement de proposer à chaque enfant d'écouter les avis des autres. Donc je fais un petit pont avec l'épisode de la semaine prochaine, et tout ça pour vous dire encore une fois, laissez l'autre parler jusqu'au bout de sa phrase, c'est un cadeau que vous lui faites, parce que pendant qu'il est en train de parler, il est en train de mûrir sa pensée, il est en train d'avancer dans sa cheminée et il est en train d'avancer sur le repérage des rayures de son arc-en-ciel de besoins qui clignotent. Donc faites-vous cette joie à vous de vous offrir un ami empathique. Faites-vous aussi cette joie d'être l'écoute empathique de quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un de votre famille ou quelqu'un ponctuellement comme ça dans la rue. On a toute une petite grand-mère là qu'on croise régulièrement et qui veut nous raconter toute sa journée. À ce moment-là, l'écoute empathique pour elle, c'est un cadeau. Pour elle, c'est un tequila. Pour nous, parfois moins, parce que nous, ce moment-là, on n'avait pas trop envie de le faire. Mais si vous avez le temps, ben, de temps en temps, offrez une petite écoute empathique aux gens qui sont autour de vous. Vous verrez le sourire et le bien-être dans les yeux de l'autre, parce que être écouté, être entendu, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, rappelez-vous d'une fois où vous vous êtes senti écouté, entendu, et remettez-vous dans cette flamme agréable, douce et enveloppante d'être entendu, pas forcément d'être compris, mais au moins d'être entendu. Voilà, c'était mon petit apport sur l'écoute empathique. Vous aviez eu un petit complément déjà sur communiquer en communication non violente, c'était sur le 27. Donc, c'est un épisode qui peut être complémentaire si vous ne l'aviez pas écouté. Donc, l'épisode 27, dialoguer en communication non violente. On se retrouve donc la semaine prochaine sur la question de l'atelier philosophique. Et puis, si vous avez envie de participer à une des offres, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, à noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute s'il vous plaît. Mettez quelques étoiles pour le diffuser auprès des parents qui ne connaîtraient pas encore. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bonne semaine. Au revoir.